L'hypothèse que je voudrais formuler ici, c'est que le discours sur le best-seller repose moins, en réalité, moins fondamentalement, sur des considérations économiques best-seller ou littéraire, un type de livre, que sur une structuration idéologique qui en détermine l'appréhension sédimentée. Pour le montrer, je repartirai des origines de la notion, avec en tête l'idée que l'avènement d'une notion culturelle, l'apparition d'une expression, d'un mot, dans le discours, ici la notion de best-seller, est le marqueur de mutation culturelle qui la dépasse. Pour que le mot surgisse, il faut que quelque chose se passe. Pour qu'on cherche à nommer quelque chose, il faut que ça se passe. En effet, s'il a toujours existé des best-sellers, des livres plus vendus que d'autres, des meilleures ventes, s'il a toujours existé des best-sellers, la notion apparaît à un moment clé de l'histoire économique et culturelle, le moment de basculement des États-Unis dans une culture de consommation, qui a eu des répercussions majeures dans l'histoire culturelle, achevant ce que Andreas Huyssen appelle le « Great Divide », le moment de rupture entre la culture restreinte, eyebrow, et les autres formes culturelles, achevant ce que Lawrence Levine décrit dans son fameux livre d'histoire culturelle, Highbrow, Lowbrow. Selon moi, la rapidité avec laquelle la notion de best-seller s'est imposée au début du XXe siècle tient à sa manière de synthétiser les transformations de la culture qui se produisent à l'époque. C'est pour cela que j'envisagerai ici le best-seller moins comme une catégorie strictement économique ou comme une catégorie littéraire ou essentiellement littéraire, il ne s'agit pas d'évacuer ces aspects, vous allez le voir, que comme une catégorie idéologique, au sens où son unité s'inscrit dans une signification culturelle globale et un système de valeurs en tension. J'en voudrais pour preuve le glissement qui s'est opéré dès les premières années entre une définition économique, vers une définition littéraire à forte coloration axiologique. En réalité, les glissements que je vais décrire se retrouvent constamment dans les études consacrées au best-seller, jusqu'à aujourd'hui. Aussi bien dans le discours des universitaires que dans le discours journalistique, le mot best-seller est un mot toujours connoté. Cela témoigne que le discours sur les best-sellers est en réalité construit en creux à partir d'une définition qu'on pourrait qualifier grossièrement, rapidement, de définition moderniste de la littérature, valorisant des modèles d'exigence fondés sur la rareté et le refus d'une trop grande accessibilité. Des discours qui ne sont pas propres aux seuls auteurs highbrow, mais qui traversent l'ensemble du discours social et médiatique, y compris la presse la plus populaire. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'on est dans la question des discours sociaux et de l'idéologie, dès lors que, contrairement à ce qu'on dit trop souvent, il n'y a pas scission entre des discours d'une certaine frange de la population ou d'un certain univers et le reste des discours sociaux. Cela s'est produit, alors on peut le dire très vite, à la suite d'un certain nombre de phénomènes qui commencent au début du XIXe siècle, la culture médiatique, dès 1836 et ses suites, même avant en réalité, mais le marqueur d'Alain Vaillant et Marie-Ève Terenti, 1836 est commode, celui d'une pulsion démocratique portée par le peuple, avec le moment traumatique en France de juin 1848, mais en fait dans tous les pays vous avez des moments traumatiques à des époques différentes, évidemment, celui enfin d'une société marchande qui se développe tout au long du XIXe siècle. Or, ces trois traits convergent dans le best-seller. Celui-ci porte, dans sa désignation même, son caractère marchand. Voilà le troisième trait. Son succès fait de lui un produit populaire. Deuxième trait, le trait démocratique, avec l'idée que, en régime démocratique, le plus grand nombre l'emporte sur les plus éclairés des membres de la communauté. Deuxième point, donc. Et partant, on voit bien apparaître l'expression d'une culture démocratique moyenne, majoritaire, dans le best-seller. Enfin, son succès vaut au livre un affichage important qui en fait aussi une réalité médiatique, éclairant aussi les transformations qui se produisent à la fin du XIXe siècle. On l'a vu avec Jean-Yves Mollier. Il est donc toujours sous le soupçon, son succès est toujours sous le soupçon d'avoir été fabriqué, et c'est ce qu'a bien montré Olivier hier dans son intervention. Pour ces raisons, à peine apparue, la notion de best-seller a été immédiatement ressaisie comme paradigmatique de transformation culturelle plus large, au point qu'il est devenu impossible de l'envisager hors des débats constitutifs de la notion, et que ces débats structurent aujourd'hui encore largement, de manière voilée, nos représentations. Pour comprendre comment le best-seller a pu exprimer les tensions traversant la culture au XXe siècle, il convient de l'aborder, je l'ai dit au début, comme un fait de discours, et de revenir à l'origine du mot, c'est-à-dire à la presse américaine de la fin du XIXe siècle. Or, maintenant, c'est facile à faire. Hein. Vous savez, vous vous abonnez à newspaper.com, hein, qui a les archives de la presse d'un nombre vertigineux de journaux, à peu près tous les journaux américains, c'est pas très cher, et vous faites des recherches in-text, et vous trouvez où apparaît le best-seller. Alors, selon Clive Bloom, c'est l'idée générale, la notion de best-seller littéraire apparaît dans les années 1890. En fait, quand on y regarde plus près, c'est un peu plus compliqué que ça. Il semble plutôt que la notion de best-seller comme notion littéraire apparaisse un peu plus tard, vers 1900, où le mot va se spécialiser. Et encore, pas de façon systématique, hein, on va le voir. Auparavant, dans les années 90, ou même un petit peu avant, il est essentiellement employé dans le domaine boursier. Par exemple, le New York Times a une rubrique « Chicago Produce Market » qui propose chaque jour le meilleur acheteur et le meilleur vendeur. Best buyer, best seller. Et il y a une spécialisation, puisque dans le vocabulaire, vous savez, hein, le genre journalistique de la bourse est un des genres les plus codifiés, avec le vocabulaire le plus codifié. Il y a ça, il y a les courses, il y a quelques domaines où c'est très codifié. Et donc, très, très vite, il y a les mêmes phrases, parce qu'en fait, on dit toujours, l'article a toujours la même structure. Et donc, best buyer, best seller, c'est là que ça apparaît. Et avec une fixation de l'expression. Et puis l'autre endroit où ça apparaît, et on voit bien que c'est lié, c'est dans la publicité. Donc, eh bien, vous voyez le premier best-selling watch in the market, les meilleures montres du marché, hein, les meilleures, mieux vendues, le Hubbard Rheumatic Syrup, le sirop qui est one of the best sellers that we have ever handled. C'est dommage de parler, de faire quelque chose en anglais quand on a un aussi mauvais accent que moi. Et puis le dernier, mise en scène, comme ça se faisait beaucoup dans la presse de cette époque, mise en scène à travers un dialogue. « Dear sir, I consider the Metropolis cigar one of my best sellers. » Voilà, le best-seller. Alors, il y a quand même une chose qui est intéressante, c'est qu'on voit que l'emploi de la notion de best-seller se situe dès l'origine au croisement d'un usage descriptif et d'un usage publicitaire. L'affirmation des ventes importantes valant pour gage de qualité, et là on retrouve déjà à l'époque, hein, ce qui va apparaître chez Maurice Descobrins, dans ce que David a dit, valant pour gage de qualité dans la perspective de cette nouvelle consommation associée à des modes de production avec des volumes de plus en plus importants, qui supposent que pour que ces volumes soient consommés sur le marché, ils passent par un processus de médiatisation. Quand vous fabriquez des volumes importants, vous ne pouvez plus vendre dans un marché local et vous devez vendre dans un marché de plus en plus important. Et on sait qu'aux États-Unis, l'articulation entre presse, transport et développement d'une société de consommation est essentielle. Je le dis pourquoi ? Parce que dans les premiers... ça c'est une improvisation parce que je n'avais pas prévu de le dire, mais j'y pense maintenant. Certes, il y a le Bookman, 91-95, qui propose les premières listes de best-sellers, mais il y en a d'autres, en fait, quand on regarde de plus près, à la même époque. Mais ce ne sont pas des listes de best-sellers nationales. Ce sont, aux États-Unis, qui ne sont pas encore totalement une nation unifiée, à la veille évidemment, une nation unifiée, mais une nation trop vaste pour être unifiée. Vous savez que la presse est essentiellement locale aux États-Unis, jusqu'à très tard. Hein. C'est pour ça que ça va favoriser les processus de syndication, etc. Hein. Toute l'économie américaine, la puissance de l'économie américaine ne peut se comprendre que comme ça. Eh bien, les premières listes de best-sellers vous indiquent ce qui est vendu à Boston, à New York, à tel endroit, à tel endroit. Et la presse joue un rôle, donc, d'homogénéisation de la consommation. On voit bien, donc, comment l'économique et le médiatique s'articulent. Quand le Bookman lance sa première liste de best-sellers américaine, j'ai pas trouvé celle, l'anglaise de 1891, hein, les anglaises de 1891 et suivantes, mais la première liste de best-sellers, celle dite première liste de best-sellers de l'histoire, d'abord, il n'y a pas le mot best-seller dedans, il y a l'expression best-selling books. Bon, si j'ai le temps, j'en dirai un mot. Comment est-ce que concrètement il présente sa liste ? Eh bien, il la présente d'une façon intéressante parce qu'il la présente avec le même vocabulaire publicitaire, les petites lignes de description, le même vocabulaire publicitaire, évoquant les best-selling new books. Le best-selling new book, Manxman, et ce fameux Trilby, hein, de Georges Dumouriez, comme le phénoménal run. Alors c'est amusant de voir déjà le phénoménal run dans un journal qui, 15 ans plus tard, présentera le best-seller comme une course. Il aussi, de fait, entre une promotion et un compte-rendu, entre une logique promotionnelle et une logique de compte-rendu. C'est encore un tel usage que l'on rencontre dans le New York Times quand il consacre un article au renouveau du marché dans le domaine des livres et de l'art en 1897. Article au croisement des questions économiques et des questions de littérature qui évoque, d'une manière qui montre que la notion de best-seller n'est pas encore fixée autour du livre, les best-going et les best-selling books. Et qui évoque les best-going et best-selling books, je vous ai donné les exemples à droite, hein, chez les différents éditeurs. Chaque éditeur disant, mon livre qui se vend le mieux, c'est celui-ci, c'est celui-là. Et il indique bien dans son article que ce renouveau du marché date de 1892. Et l'année de 1892, elle n'est pas anodine aux États-Unis, puisqu'elle fait suite directement à la ratification par les Américains de l'International Copyright Act de 1891, qui va arrêter qui va donner un coup d'arrêt après une série de lois, hein, mais qui va donner l'ultime coup d'arrêt au processus de piratage qui avait lieu aux États-Unis. Et qui va stabiliser le marché éditorial et permettre aux éditeurs de faire entrer, en quelque sorte, l'économie éditoriale dans une logique industrielle. Autrement dit, l'intérêt pour les best-sellers, l'apparition de la notion de best-seller, ne s'inscrit pas tant dans une description de phénomène propre à l'édition, mais dans un paradigme discursif plus large, qui est celui d'un phénomène de développement de la d'une société marchande de nouvelle nature à laquelle participe l'économie du livre. Et c'est bien ce qui est dit ici. En 1901, l'une des premières listes de best-sellers à apparaître dans le New York Times, donc il y en a eu bien avant les dates indiquées, hein, indique clairement cet enjeu économique. Mais cet enjeu est déjà ressaisi en termes idéologiques liés au « Great Divide » culturel. Je cite le texte que vous avez sous les yeux. « To your dilettante literary man, the sales of the book of books may not be of any particular interest. But that they are to the general public is attested by the fact that the publisher invariably announces a large sale as his most potent advertiser. » Vous voyez mon anglais. C'est l'article, voilà. 1901. On voit dans quelle alternative, sur quelle alternative repose le discours du best-seller, définir le succès d'un livre suivant les termes soit du dilettante literary man ou ceux du général public. Ici, le général public serait sensible aux pratiques des publicitaires, nous dit le texte, et aux logiques, et le fait qu'on fasse référence aux publicitaires à cette époque est tout à fait significatif, puisque c'est à ce même moment que se développent les nouvelles techniques du marketing américain, hein, c'est ce que montre très bien William Leach dans son ouvrage « Land of Desire », les nouvelles techniques du marketing américain avec une sophistication extraordinaire qui va imposer, selon William Leach, aux États-Unis, cette logique de consommation comme aussi une logique culturelle et non pas seulement comme une logique économique. Et on voit donc une alternative entre eux de définition de la culture au moment même où ces enjeux deviennent massifs aux États-Unis. En ce sens, la montée en puissance des listes de vente et des articles consacrés aux livres best-sellers dans les premières décennies du XXe siècle participe de cette transformation des pratiques culturelles impulsée par la révolution commerciale de la fin du XIXe siècle. De fait, le battage autour des ventes d'un livre dans les médias invite à l'acte d'achat, etc., je l'ai dit tout à l'heure. En réalité, et donc à des logiques de consommation liées à des pratiques de consommation plus larges. Mais en réalité, comme le montre l'opposition entre le dilettante literary man et le général public, le discours sur le best-seller s'est immédiatement retrouvé pris entre deux définitions antagonistes de la culture, déjà formulées bien avant, hein, par exemple par Matthew Arnold dans « Culture or Anarchy ». 1869, celui d'une culture comme ensemble de pratiques, et donc de plus en plus comme une culture marchande, puisque la plupart des pratiques deviennent des pratiques de la culture marchande, et celui d'une culture comme plus haute valeur de l'esprit. Ces deux définitions structurent à l'époque le discours social, mais, et c'est ça qui est important, à des niveaux hétérogènes. Pas dans les mêmes textes, pas dans les mêmes moments. On va convoquer un système de valeur à un moment et convoquer l'autre à un autre. Alors, la logique marchande et la logique de la consommation va passer dans tous les textes qui portent sur la célébration du progrès, des techniques, d'une modernité marchande, etc., d'une puissance nationale, etc. Et de l'autre côté, là, on va valoriser un modèle artistique fondé sur des valeurs aristocratiques, etc. Cela s'est traduit dans la presse par un discours proprement schizophrène, célébrant le succès public des œuvres et condamnant le best-seller comme expression d'une marchandisation de l'esprit. Même au début, c'est assez intéressant, parce que quand on regarde la première décennie ou les deux premières décennies, dans le Bookman et dans le New York Times, on a presque un doublon synonymique. Très vite, on voit apparaître best-seller comme un terme critique, péjoratif, et de l'autre, best-selling books comme un, comme un terme neutre. Comme si, au début, il y avait un problème quand même. Bon. Autrement dit, les articles publiés dans la presse manifestent la montée en puissance de deux systèmes culturels contradictoires qui peuvent le plus souvent s'imposer chacun dans leur propre sphère discursive, mais se perturbent précisément autour de la notion de best-seller, un livre qui est aussi pensé comme un bien de consommation. Mais cette tension se traduit aussi par des échanges entre les deux conceptions de la culture. On pourrait le montrer, par exemple, à partir d'un article de 1907 intitulé « What best-sellers mean ?» to their writers. Le journaliste rapporte cette phrase en début d'article, vous aurez du mal à le lire, cette phrase d'un éditeur à propos d'un des plus grands auteurs de best-sellers américains de la fin 19e, début 20e, Hall Caine. Et voilà la phrase de l'éditeur: Hall Caine's earnings compare with those of a steel magnate, d'un mania de l'acier. Il gagne quasiment autant qu'un mania de l'acier. Et on voit immédiatement comment les choses vont se poser. L'affirmation est ambiguë. Formulée par un éditeur, elle manifeste, semble dire le texte, une forme de fierté devant la réussite de l'auteur, mais suivant des modalités de représentation de cette réussite qui s'inscrivent dans un imaginaire capitaliste et bourgeois, pas dans l'imaginaire littéraire. Tout l'article repose sur la même ambiguïté, en soulignant que désormais les auteurs littéraires peuvent enfin vivre de leur plume. Les choses vont mieux, désormais on peut vivre de sa plume quand on est un écrivain. Donc il y a une axiologie positive. Et les illustrations de l'article, voilà les illustrations, mettent en scène les auteurs en médaillon sur des livres, et juste en dessous, vous n'arrivez probablement pas à lire, eh bien, le nombre de ventes et les gains. Et on voit bien se mêler ici deux définitions de l'auctorialité, une définition mercantile, disons, et une définition obéissant aux principes traditionnels, le portrait de la célébrité, le portrait de l'artiste, plutôt à son avantage, sur le livre, etc., hein, une logique presque du classique contemporain. Donc on voit l'ambiguïté du discours et la possibilité d'une telle position médiane, qui tient évidemment à la position médiane du New York Times lui-même, hein, évidemment, c'est pas neutre. En réalité, c'est plus compliqué encore. Et l'article montre que les choses sont éminemment problématiques et qu'on ne peut pas les présenter si simplement. Le journaliste prend soin de souligner que les auteurs jouissant de la meilleure réputation littéraire, les auteurs highbrow, ne gagnent pas autant que les plus populaires. Take the case of Henry James. Notez quand même que Edith Wharton fait partie des auteurs de best-sellers, donc c'est compliqué. On voit bien que l'idéologie rend les choses problématiques. Take the case of Henry James. Prenez le cas d'Henry James, l'idole des highbrow. The idol of the highbrow. On dit généralement que ce que lui rapportent ses œuvres. Alors là, j'arrive pas bien à lire, je ne sais pas si c'est 4 500 $ ou 1 500 $. C'est pas pareil. Lui rapporte, on va dire le moins, 1 500 par an. Ainsi, les idoles du marché seraient, elles, exclues de cette nouvelle situation des auteurs. On voit ainsi se dessiner un double système de valeurs concurrençant celui du succès et un système dans lequel il y aurait le système de l'exigence. D'un côté, la réussite capitaliste, de l'autre, le sacrifice de l'art. On identifie évidemment ces choses. On entre en passant l'effet de dramatisation. Parce que même si on lit 1500, c'est peut-être 4 500, je le redis, eh bien, 1 500 aujourd'hui, ce qui donne presque envie de pleurer, c'est quand même, au bas mot, selon les estimations les plus basses, 40 500 $ actuels, ce qui n'est pas rien. Et selon les estimations les plus basses, puisque vous savez que les fourchettes sont variables, donc quand on regarde, ils expliquent que ça peut, si on fait une estimation haute, être 3 fois plus que ça. Donc, en tout cas, c'est pas la misère. Hein, c'est pas la misère. C'est pas une fortune, mais c'est pas la misère. Preuve que déjà dans le texte, il y a une dimension idéologique de la scission entre Henry James, pour lequel on insiste sur le peu qu'il gagne de façon presque exagérée, et de l'autre, les idoles du marché. Mais ce que montre encore le dispositif de l'article, avec ses portraits en médaillon, en couverture de livre, c'est qu'un autre système de valeurs se définit en parallèle. Et ce système de valeurs, on peut l'expliquer aussi, selon moi, par un autre phénomène, un phénomène médiatique dont la présentation matérielle de l'image me semble être l'expression. En effet, présenter les portraits des auteurs, c'est s'inscrire dans une culture qui tend à confondre non plus les questions économiques et les questions artistiques, mais à confondre la question de la valeur littéraire et la question de la célébrité, le portrait, question de la célébrité. Et donc, la question du médiatique. Troisième point, le médiatique. Pourquoi ? Parce que ces auteurs, Middlebrow, présentés par la photographie, technique qui se développe à la même époque, hein, dans la presse, de façon massive, et qui est véhiculée dans un espace de la presse, celui du magazine dans ses formes modernes, telles qu'il se développe en Grande-Bretagne et aux États-Unis, et un petit peu plus tard ailleurs. Eh bien, ces auteurs, Middlebrow, sont des auteurs, de best-sellers, sont des auteurs qui sont profondément liés à cette culture du magazine qui se développe à l'époque. Culture du magazine qui va publier les œuvres de Hall Caine, Rudyard Kipling, Edith Wharton, Anthony Hope, Conan Doyle, autant d'auteurs de best-sellers de l'époque. Or, cette culture du magazine, qui est aussi liée à cette culture de la célébrité et qui confond célébrité et valeur culturelle, c'est une culture qui se développe à l'époque avec, aux États-Unis, le Women's Magazine, le Cosmopolitan, en Grande-Bretagne, le Strand, le Pearson's, et un peu plus tard en France, Lecture pour tous, Lisez-moi, Je sais tout, etc. Ces magazines sont des magazines de divertissement littéraire et culturel, et ce sont les magazines qui publient le plus volontiers ces auteurs. Or, comme l'a montré Richard Oman, ce type de magazine a joué un rôle central dès la fin du XIXe siècle dans l'invention d'une culture de petite bourgeoisie qu'il appelle la « professional managerial class », en favorisant une dynamique de consommation standardisée associée à un imaginaire de conquête sociale via un ensemble sémiotique du magazine associant publicité, articles culturels au sens très large du mot culturel, c'est-à-dire autant l'art que les techniques, etc., et poésie, fiction, texte littéraire, l'ensemble dialoguant dans l'espace pour produire véritablement un univers mental, un imaginaire, un ensemble d'aspirations et de valeurs morales et esthétiques. En effet, alors je vais passer rapidement parce que je parle trop lentement, en effet, la diffusion des journaux n'était rendue possible que par la publicité. Ces journaux, pour fonctionner, avaient besoin de la publicité. Une publicité qui ne pouvait, étant donné leur prix de vente de la publicité, n'être proposée que par des marques, ce qui était des vraies marques au niveau national, hein, c'était les premières vraies marques au niveau national, des marques donc au niveau national, qui favorisaient donc une consommation standardisée et l'assortissaient à la valorisation de nouvelles pratiques de divertissement, dont l'une des expressions les plus précoces sera évidemment le cinéma, mais on l'a vu, comme le disait Molière, le théâtre, etc. Bon. Cette nouvelle culture trouvait son expression même dans les best-sellers, lesquels épousaient les valeurs de cette classe. La réussite de l'écrivain en faisait un modèle managérial pour les classes moyennes. Et son style et son discours échappaient à la fois aux obscurités aristocratiques de la culture highbrow et à l'immoralité et la vulgarité de la consommation lowbrow. Alors là, j'ai fait sauter un passage parce que c'était vraiment trop long, mais c'est évidemment dans ces deux journaux qu'on trouve les deux nouvelles que vous connaissez probablement, best-seller, the best-seller. L'une de O. Henry de 1908 et l'autre de j'ai plus la page. Bon, c'est pas très grave, mais de Gordon Hall Gerould de 1915 dans Scribner's qui défendent l'un comme l'autre une valeur moyenne du best-seller contre les valeurs highbrow. Je passe là-dessus. Il s'agit donc de marier la logique de divertissement portée par le magazine et les nouveaux modes de consommation. Y compris d'ailleurs en empruntant aux imaginaires lowbrow certaines de leurs séductions, mais d'affirmer en parallèle les valeurs d'une culture distinctive, c'est pas la classe populaire qui consomme ces magazines, insistant sur le goût pour les beaux-arts et la littérature. Cette position particulière explique l'apparition, dès la fin du XIXe siècle, de toute une série d'écrivains jouant de façon ambiguë avec les conventions de la littérature de genre, ce qu'on a appelé les écrivains du New Romance, les écrivains stevensoniens chez les Britanniques, mais qui sont en fait la manifestation d'une mutation des pratiques culturelles et des structures structuration des classes dans leur relation à la culture. On pense à Anthony Hope et Conan Doyle, ou Stanley Wiman en Grande-Bretagne, qui vendent aussi massivement aux États-Unis à ce moment-là. En France, en un sens, à Maurice Leblanc ou à Rony Lainé dans sa dernière période. Comme eux, nombreux sont ces auteurs à négocier avec les imaginaires sériels des productions populaires, récits criminels, romans d'aventure, etc., mais suivant des stratégies distinctives visant à les différencier du tout venant sériel. De même, quand les auteurs ne rapportent pas explicitement leur œuvre à un genre, ils exploitent les attraits sériels via un jeu avec les stéréotypes du romance ou des formes de sentimentalisme, de mélodrame, qui manifestent un lien avec la culture de divertissement. Si de tels échanges avec les productions sérielles se font jour, c'est aussi parce que ce qui se définit, c'est une culture de divertissement, mais d'un divertissement distinctif, d'un divertissement de bon goût, qui emprunte donc aussi aux formes et aux imaginaires de cette culture populaire, à condition de marquer, par une différence de traitement, stylistique, thématique, le caractère distinct de l'œuvre, en mettant systématiquement l'accent sur l'originalité de l'auteur. Revoilà le portrait. Le caractère distinct, par rapport au, et son, le caractère distinct de l'œuvre par rapport aux conventions. C'est cela qui est valorisé aussi dans le best-seller, sa dimension distinctive et son inscription dans les logiques de célébrité. La mise en valeur de l'auteur dans le dispositif éditorial et dans les critiques, payées ou non, dans la presse, procède de cette stratégie distinctive. Bon, je passe un peu rapidement, c'est des choses qui ont été abordées pas mal hier. Dès lors, ce qui est attaqué dans les best-sellers, c'est certes un type de littérature, celle, pour le dire rapidement, que Clément Greenberg décrira quelques années plus tard comme la culture alexandrine, la culture du kitsch, hein, dans Avant-garde and Kitsch, son fameux texte. Mais c'est surtout, de manière beaucoup plus large, de nouvelles pratiques culturelles engageant des modes de consommation, des relations aux loisirs, au divertissement, des classes sociales, etc. C'est bien ainsi qu'est reçue en France la notion, et je passe parce que ce sont des analyses que j'ai proposées dans mon article dans Fiction, dans lequel je montre très vite que si tout le monde dit en France, dans les premiers articles sur le best-seller, que le best-seller est une invention américaine, c'est parce qu'on ne décrit pas un pays, mais on décrit un mode de consommation représenté, symbolisé, incarné par l'Amérique. Mais ce sont surtout, évidemment, les critiques modernistes, et je finis rapidement là-dessus, qui vont attaquer frontalement ces pratiques, nouvelles pratiques culturelles. On pense, par exemple, à la lettre de Virginia Woolf sur la culture Middlebrow, qui date de 1932-33. Elle n'a pas été publiée de son vivant, donc on pense qu'elle l'a écrite en 32-33. S'en prenant alors, qui m'intéresse parce qu'elle attaque le Middlebrow, mais elle s'en prend à qui ? À J.B. Priestley. J.B. Priestley, qui était, à l'époque, l'auteur best-seller. Et donc, elle répond à un article de Priestley contre le highbrow. Elle attaque le middlebrow, mais elle attaque un auteur de best-seller. Et donc, on voit s'articuler la notion de middlebrow, qui renvoie à la classe sociale et à des pratiques culturelles, et la notion de la vente du best-seller. Et puis, l'autre texte fondamental, que vous connaissez certainement, c'est l'essai de Q.D. Lewis, Fiction and the Reading Public, 1932 également, hein, voyant, dans la montée en puissance du best-seller, et plus largement de la marchandisation du livre, l'expression d'un déclin culturel irréversible. On notera simplement que chez Q.D. Lewis, le best-seller désigne le lowbrow, elle l'associe à la notion de lowbrow, et chez Virginia Woolf, manifestement, c'est le middlebrow. Il me semble que ce glissement est tout à fait significatif pour montrer, en quelque sorte, la tension idéologique présente dans la notion de best-seller, c'est-à-dire l'idée que on est face à une culture middlebrow qui tire l'ensemble des pratiques culturelles vers le lowbrow. On comprend alors que le best-seller se retrouve dans une situation clivée. D'un côté, il correspond à de nouvelles pratiques de consommation qui se développent de manière inéluctable dans la société et qui tendent, dans les faits, à redéfinir la relation à la culture, en imposant en particulier des logiques distinctives directement négociant avec les pratiques de divertissement. Mais parce qu'il incarne des modes de consommation de plus en plus partagés, précisément parce qu'il incarne des pratiques de plus en plus présentes, il symbolise aussi une forme inacceptable de pratique culturelle, renonçant à faire de la littérature l'exercice des facultés les plus élevées. Ce sont des choses connues, hein. C'est pour ça que je parle vite. Cet écart entre des modes de consommation en développement et des discours les refusant apparaît ici encore dans le discours de la presse, et ce jusqu'à aujourd'hui, et dans l'ensemble de la presse. Lorsque des journalistes emploient la notion de best-seller de manière globale, ils mettent presque toujours l'accent sur la dimension standardisée des œuvres, en occultant les processus de singularisation qui sont présents. Le best-seller, c'est la standardisation. Mais lorsqu'il s'agit de présenter des œuvres particulières, de faire un article sur tel auteur de best-seller ou sur tel autre, le discours est beaucoup plus mélangé et beaucoup plus problématique. On loue les œuvres, Mais, et ça va être la suite, c'est le basculement vers la dernière partie de mon intervention, suivant un vocabulaire qui intègre l'idée de leur illégitimité, un vocabulaire esthétique du goût mineur. On vante, par exemple, le caractère spirituel, bien ficelé, captivant, excentrique, tout ce vocabulaire que David a montré dans son analyse de Maurice de Cobra. Ce vocabulaire qui est emprunté, en un sens, à la publicité, j'y reviendrai. Ce vocabulaire esthétique d'un plaisir mineur, formalisé dans les magazines Minolbro valorisant le divertissement dès avant la Première Guerre mondiale, va se développer constamment au cours du XXe siècle, jusqu'à devenir de plus en plus courant dans les discours critiques, manifestant l'assimilation progressive des formes littéraires autrefois délégitimées dans les champs de la culture, mais aussi la trace de cette illégitimité. Donc, la situation clivée, elle est la suivante. On a un vocabulaire du best-seller qui est assimilé par la critique, par toutes les formes de critique, mais un discours général sur le best-seller qui continue à insister sur le Great Divide. Ce vocabulaire, en lui-même, est par ailleurs un vocabulaire qui porte en lui cette dimension d'un clivage. Alors, on retrouve cet aspect, par exemple, de façon frappante dans l'apparition de critiques positives des fictions criminelles aux États-Unis dès les années 30, même un petit peu avant, dans les années 20, mais j'en ai pas trouvé des assez parlants, donc j'ai pris ces exemples-là. Voilà, vous voyez les expressions, hein, je les développe pas parce que j'ai plus beaucoup de temps. Ce vocabulaire témoigne combien dans les journaux grand public une circulation s'est produite entre les espaces du tapage publicitaire, avec des expressions du plaisir, du divertissement, etc., et le vocabulaire des critiques eux-mêmes qui assimilent ces questions-là et qui les présentent comme des arguments analytiques. Mettant toujours en avant l'originalité des œuvres, mais d'une façon problématique. Et cette manière problématique de décrire, puisque d'une façon mineure, cette manière problématique de décrire les œuvres, on va la rencontrer jusqu'aux années 70, de façon frappante, dans les années 70, le New York Times décide d'intégrer des éléments de critique dans sa liste des best-sellers. Résumés, critiques, etc. Et quand on regarde ces résumés, je vous les donne parce que ça ne doit pas être très lisible, on va avoir pour Curtain les Ingeniously Contrived Going Ons, pour Touch Not the Cat, c'est les best-sellers, hein, Heidi Brew of Mystery, Occult and Historical Romance, pour Slapstick, Whimsical Futuristic Fantasy, etc. Les termes rebondissement ingénieusement conçu, enivrant, fantaisiste, montre bien qu'on est dans un vocabulaire critique axiologiquement positif du divertissement. De telles expressions, comme celles caractérisant autrefois Hall Caine, des Cobras, on l'a vu, ou les auteurs de récits policiers, s'inscrivent dans un vocabulaire du divertissement, de l'effet, de la trouvaille, qui caractériserait l'esthétique de la consommation, selon Daniel Harris et Sian Engai, dans leur étude Cute, Quaint, Hungry and Romantic, et dans l'étude Our Aesthetic Categories. On pourrait y ajouter, avec ces critiques, de façon plus synthétique, zany, loufoque, cute, interesting, quaint, pittoresque, etc. Et sans doute aussi, avec Clément Greenberg, mais cette fois-ci, lui, le formulait de façon beaucoup plus critique, enfin, eux aussi, d'ailleurs, fun, par exemple, hein, amusant, divertissant, etc. Il me semble que cette assimilation de critères de jugement en mode mineur doit ici encore être rapportée à un phénomène plus large de développement de la culture de consommation. En effet, celle-ci a imposé au cours du XXe siècle une relation au monde très largement esthétisée, via des dispositifs sollicitant en permanence le jugement esthétique. Publicité, emballage illustré, hein, design, marketing, tous ces éléments en appellent au jugement de goût, mais à un jugement de goût portant sur des expériences banales, quotidiennes, le contraire de la définition, disons, philosophique ou celle de l'histoire de l'art, de l'esthétique, une définition insistant sur le caractère, disons, dans une tradition lointainement kantienne ou burkienne du sublime. Bon. C'est ce qu'a d'ailleurs souligné Jean-Marie Schaeffer dans son livre « L'adieu à l'esthétique », hein, montrant qu'en réalité, il y a une scission dans le discours sur l'esthétique. De telles transformations ont favorisé le développement d'un vocabulaire esthétique faible, susceptible de décrire de telles expériences au quotidien, couramment, et donc les médias s'en font le reflet le plus direct. Mais il a aussi et surtout permis à toute une gamme de produits culturels de se retrouver légitimé en un sens, puisqu'on peut dire qu'on préfère un paquet de lessive à un autre selon un vocabulaire esthétique, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas dire qu'on préfère un best-seller et un autre. Et donc, il y a des processus nécessaires dans une culture de consommation, d'assimilation de la légitimation. Mais paradoxalement, ayant à négocier avec l'héritage d'une conception highbrow de l'esthétique, dans le domaine de la littérature, cette légitimation est restée plus problématique, intégrant la trace de son illégitimité, ici encore, dans le discours critique, via des formulations ambiguës, amusantes, distrayantes, voire équivoque avec le développement de lectures kitsch selon le second degré des œuvres qui formulent dans un même mouvement des processus de légitimation analytique et l'assimilation de la délégitimation des œuvres à travers l'ironie, le second degré, etc. C'est toute l'ambiguïté du regard porté sur le best-seller qui se révèle dans de telles descriptions entre valorisation de l'originalité de l'œuvre et mise en évidence de son caractère mineur. Elle révèle un autre système d'évaluation des romans, articulant une interrogation sur la valeur des œuvres et un discours sur le plaisir, le divertissement, la consommation. Autrement dit, un jugement de goût en mode mineur, articulé autour de critères d'évaluation, originalité thématique ou stylistique, intérêt intellectuel, dimension morale, qui valent aussi pour justification du plaisir. Il y aurait sans doute lieu de faire l'histoire de ces jugements de goût, de la façon dont ils s'organisent et se structurent, des catégories qu'ils imposent, vocabulaire du spectaculaire ou de la fantaisie, et des catégories que ce vocabulaire a fini par abandonner. Par exemple, évidemment, le vocabulaire moral édifiant qui s'est beaucoup atténué au fil de la deuxième moitié du XXe siècle. Des échanges qui ont pu se produire avec la culture légitime. On pense, par exemple, à la vogue du méta. Je ne sais plus qui en a parlé lors de la première intervention de vous trois, mais la vogue du méta est typiquement l'expression de ces échanges. Je crois que c'est Alexandre. Mais on pense déjà aux analyses, mais on pense déjà dans l'entre-deux-guerres à ce que montre, et même, enfin, plutôt à l'époque des paperbacks, après la Seconde Guerre mondiale, ce que Paula Rabinowitz montre dans les échanges qui se produisent dans la culture des paperbacks. Cela permettrait sans doute de montrer la manière dont ce vocabulaire a fini par devenir central dans le langage critique au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, quand seront intégrés de plus en plus massivement dans les listes de best-sellers des productions sérielles, avec l'avènement des paperbacks, et des produits transmédiatiques avec la nouvelle vague des novélisations de blockbusters dans les années 80, accompagnant le renouveau du blockbuster et des produits dérivés. Progressivement, en effet, on va voir se multiplier les œuvres de la littérature, j'ai presque fini, hein, les œuvres de la littérature de genre, policier, espionnage, science-fiction, dans les listes de best-sellers, on le sait. Un tel glissement peut certes être décrit, dans la perspective presque de Q.D. Lewis, hein, comme un processus de lobroisation des œuvres à succès. Mais il me semble devoir plus justement être décrit comme une moyennisation des pratiques culturelles accompagnant le basculement de l'économie en régime post-fordiste. Je m'explique. Bon, je vous dis en un mot ce que c'est que le post-fordisme. Première période fordiste, standardisation de la consommation. Tout le monde achète à peu près les mêmes choses. Donc ça, c'est l'entre-deux-guerres, en termes littéraires, c'est les collections standardisées. Et puis, après le moment de standardisation, qui continue un peu après la Seconde Guerre mondiale, on se rend compte qu'il y a une saturation du marché, et en termes de consommation et de production, on continue à produire en très grande série, mais on produit du distinctif à l'intérieur des processus de standardisation. C'est l'iPhone, si vous voulez. Bon, pour prendre un exemple très... L'iPhone, distinctif, mais standardisé. De fait, quand on regarde l'histoire du best-seller et l'histoire des pratiques de consommation, les collections standardisées fordistes, donc, qui s'inventent au début du XXe siècle, au même moment que le taylorisme se théorise, de type Harlequin, se sont retrouvées concurrencées, puis à partir des années 80, supplantées par des productions au format et au contenu répondant à des stratégies de singularisation, prise dans cette dynamique fordiste de singularisation systématique de biens standardisés. Les productions de genre, répondant parfaitement à cette logique, en sont naturellement venues aujourd'hui à occuper très largement le territoire du middlebrow. On voit comment évolution des discours critiques et évolution des textes sont inséparables et qu'elles ne peuvent être comprises qu'en étant rapportées à des mutations plus larges des pratiques culturelles. On voit donc la dimension, sur laquelle j'insiste, idéologique et les transformations de l'idéologie au cours du temps. En régime dominé par la consommation de masse, affectant jusqu'aux catégories d'analyse et aux modalités de jugement de goût, il n'est pas étonnant que les modes d'appréhension des œuvres évoluent aussi et la nature des œuvres de même. Or, il me semble, et c'est ma conclusion, qu'une telle évolution des catégories esthétiques, de la manière dont elles sont intégrées, évolution des manières esthétiques, de la manière dont elles sont intégrées, etc., bon, je ne reprends pas, se dit quelque chose de l'idéologie. En fait, je répète la même chose. On retrouve encore, dans de tels discours et dans les manières de manipuler un vocabulaire équivoque du jugement en mode mineur, la trace aussi de l'histoire du jugement. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la culture, l'idéologie, c'est un débat entre une situation synchronique et une histoire sédimentée, hein, le souvenir de l'histoire culturelle. Mais c'est ce qui permettrait de comprendre du même coup toute une série de phénomènes qu'on rencontre aujourd'hui, comme précisément les séries télévisées distinctives, qui sont bien des phénomènes typiques du post-fordisme, hein, selon moi, ou les blockbusters métapoétiques qui correspondent exactement à ces phénomènes, qu'on pourrait qualifier donc de nouvelles formes du Middlebrow. Ainsi, par exemple, l'usage de la parodie ou le goût du kitsch dans les productions contemporaines combinerait-il l'idée d'une illégitimité héritée des débats sur les productions sérielles et des stratégies de singularisation par la connaissance, par la connivence, l'érudition et l'ironie. On pourrait de même étudier la façon dont les formes populaires des contre-cultures qui émergent dans les années 70, hein, contre-cultures articulées à des formes très pop, articulent les modes d'appréhension des œuvres qui caractérisent les productions sérielles, mais en les combinant cette fois à un discours distinctif largement emprunté au vocabulaire de la culture highbrow. C'est le cas, par exemple, du néopolar, de la speculative fiction, de la nouvelle bande dessinée aujourd'hui, ou du jeu vidéo indé. Bon. Or, ces pratiques, si elles prétendent s'opposer radicalement aux logiques du best-seller, là, on est dans une opposition symbolique très forte aux logiques du best-seller, si elles prétendent s'y opposer, retrouvent en réalité la tension qui le caractérise entre logique de standardisation et de singularisation. Ce serait du highbrow en régime post-fordiste, pour le dire autrement. Cela expliquerait d'ailleurs la rapidité avec laquelle leurs procédés peuvent être absorbés par des fictions devenues des best-sellers. L'échange, la middlebrowisation. Et si ces pratiques culturelles contemporaines peuvent être rapprochées lointainement des phénomènes déjà présents dans le best-seller, c'est parce qu'elles négocient avec cette culture de consommation qui s'est inventée à la fin du 19e siècle, ou début du 20e. Dès lors, si les best-sellers, et plus largement les stratégies middlebrow, permettent d'éclairer l'évolution des discours sur les œuvres et du périmètre des objets esthétiques, au point qu'on peut sans doute en faire les marqueurs des transformations culturelles, c'est parce que, dans leur tentative pour combiner logique de standardisation et singularisation, se joue la médiation entre différentes conceptions de la culture au cours du XXe siècle. Ils sont les marqueurs des transformations des conceptions de la culture. Dès lors, comment lire le best-seller ? Et je dirais trois petites choses, si vous m'y autorisez. Alors, un, comment faire pour le lire en sortant, en un sens, en essayant de sortir, on ne sort jamais de l'idéologie, hein, bien sûr, mais en sortant, en tout cas, du regard exogène d'une lecture à partir du modèle highbrow. Bon, comment on peut le faire ? D'abord, il me semble qu'il s'agit de ne pas distinguer dans le jugement esthétique entre le questionnement littéraire et marchand. Ce que je veux dire, c'est que l'un des paradigmes dominants du jugement de goût aujourd'hui, c'est le paradigme de la consommation marchande et de la consommation. Tous les biens de consommation sont des biens culturels, et les biens culturels sont des biens consommés. Bien écrire, c'est aussi séduire, parler de choses qui intéressent, toucher le lecteur, produire des émotions, etc. Et pour cela, articuler standardisation et singularisation. Deuxième point, il faut, à partir de là, élargir la question esthétique à l'ensemble des expériences quotidiennes, et cela suppose d'investir des catégories du jugement de goût propres à la culture de consommation et à nos expériences consuméristes. Or, ce vocabulaire, s'il est pratiqué couramment, il reste pour nous, chercheurs, universitaires, à le cartographier, à l'analyser, à l'historiciser. Et il me semble que c'est un chantier qui reste très largement à faire. Troisième point, dans cette perspective, comme j'ai essayé de le montrer, le jugement de goût en régime culturel, médiatique et marchand, dans cette perspective du jugement de goût en régime culturel, médiatique et marchand, il convient d'appréhender l'œuvre comme une réalité sémiotique complète. L'œuvre, ce n'est pas le texte comme réalité transcendant ses conditions de production et de consommation. Mais c'est la synthèse d'un interdiscours collectif, publicitaire, critique, discursif, médiatique, social. Pourquoi ? Parce que si on intègre le paradigme économique, il faut intégrer la chaîne de production et de distribution. Si on intègre le paradigme médiatique, il faut intégrer les discours encadrants, critique, publicité, aujourd'hui, Internet, etc., comme réalité de l'œuvre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que les productions post-fordistes aujourd'hui l'imposent. On ne peut pas étudier une série télévisée indépendamment de la chaîne, des fans, etc. Donc on voit bien que c'est bien ça qui se passe. On ne peut plus faire autrement. Face au best-seller, notre jugement de goût, notre relation esthétique à l'œuvre, est une relation à quelque chose qui dépasse en réalité les définitions de l'œuvre comme réalité transcendante, mais qui ces définitions n'ont existé en réalité que précisément pour extraire l'œuvre de ces conditions de production et de réception de plus en plus médiatiques et marchandisées. Je vous remercie.